C'est quoi l'expression qu'on a qui dit que pour faire une famille, ça prend un village? Je sais pas si je l'ai eu comme
pour
l'expression.
Pour élever un enfant, ça prend un village.
Ça prend un village, oui. Ouais. C'est une façon plutôt séculière à regarder ça, mais la réalité, c'est que spirituellement, c'est vrai aussi, n'est-ce pas? Si c'est le système à moi, quelqu'un entendrait l'évangile, le croira, et le Seigneur le prendra tout de suite avec lui. C'est fini. Il me semble que c'est facile, ça. C'est trop facile, hein? Et souvent, on voit comment est-ce que ça prend tout un paquet de monde pour faire une église. Et moi, j'ai tout le temps visualisé, imaginé une église comme une barille dans laquelle on garoche des roches. Puis le baril est installé sur un moteur, puis ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Qu'est-ce qui arrive avec les roches à la longue? Ça se frotte.
Il vient plus petit.
Il vient plus petit. Il vient plus lisse. Ouais. Il y a moins de coins. Commence à être pas mal. C'est beau. Les pierres de même, c'est impressionnant. C'est parce que quand on était petit, on avait un petit kit qui faisait ça, là. Puis on jouait avec ça, puis on émettait des roches, puis ça sortait tout beau, tout poli. Puis j'ai l'impression que l'Église, c'est un peu comme ça. On se frotte l'un contre l'autre, et on apprend des choses, et on maîtrise des choses. Et à la longue, on ne devient plus comme on était avant, n'est-ce pas?
Plus poli.
Plus poli, hein? Dans plus qu'un sens. Mais ça prend du monde pour venir ensemble, pour louer le Seigneur ensemble, pour prier le Seigneur, et prie l'un pour l'autre, et pour s'occuper de l'un et l'autre, et pour étudier la parole de Dieu, pour le connaître, le Seigneur, et puis ensuite de mettre ceci en pratique dans nos vies. Chaque église a une groupe de personnes, et chacun de ces personnes ont une histoire propre à eux, unique, comme l'église d'Emmanuel, comme l'église d'Éphèse. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on veut faire. On veut faire le tour pour en arriver, justement, à comprendre comment on a cette épître aux Éphèses. On veut se préparer. Et pour se préparer, on a pensé de faire, c'est de faire un genre de survol de comment l'église d'Éphèse s'est formée. Et puis ensuite, qu'est-ce qui est arrivé pendant 40 ans? De l'an 50 jusqu'à l'an 90. Parce que les Écritures nous donnent beaucoup d'informations sur l'Église d'Éphèse. Des places, des fois, qui sont complètement inattendues. Il y a des choses dedans qu'on dit, ça se peut-tu que ça, c'est l'Église à laquelle Paul a écrit de telles lettres? Et puis, c'est fascinant de voir toutes ces choses-là. Alors, une des choses qu'on a dit, c'est qu'une Église commence loin, commence longtemps en avant avec des individus que Dieu prépare d'avance. Si on pense à Emmanuel, chacun de nous, on est venu à différents moments. Il y en a qui sont venus récemment, il y en a d'autres qui ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et même l'Église a commencé il y a 40 ans. Mais avant le 40 ans, il y avait un monsieur Bill Phillips, pasteur. Il était à Huntsic, il travaillait à Huntsic, et puis il a embauché mon père comme son assistant, et les deux ont travaillé longtemps à Huntsic pour voir l'Église grandir, à un point que ça débordait, et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver d'autres options. Ils cherchaient des bâtiments, ils cherchaient des terrains. Mais une des choses qu'ils ont considérées, évidemment, c'est de se diviser. Et quand ils sont divisés, ils ont redivisé, et puis finalement, il y a un groupe qu'il y avait ici dans l'ouest de l'île pour commencer. Et ça, ça fait longtemps avant 1985. Longtemps avant ça, c'était dans les branles. Et le Seigneur avait préparé les cœurs, avait préparé des individus. Et dans l'église d'Éphèse, c'est la même histoire. Éphèse a commencé avec des individus. Et ce matin, la semaine passée, on a voulu regarder un peu les individus qui ont contribué à la démarche. Et on a vu que la première personne qu'on a regardée la semaine passée, c'était l'apôtre Paul. Et il a connu le Seigneur face à face. Il l'a rencontré sur le chemin de Damas, Actes chapitre 9. Mais le Seigneur n'était pas fini avec lui juste là sur le chemin de Damas, mais il avait préparé toute une série de choses dans sa vie pour l'amener à arriver à être l'évangéliste, l'enseignant, le pasteur, comme on l'a connu dans ses différentes lettres. En fin de compte, si tu veux voir la conversion de l'apôtre Paul, on voit qu'autrefois il était Saül, et en Actes chapitre 9, on voit cette conversion. Et ensuite, on a vu littéralement la sanctification de l'apôtre Paul. Et ça a pris de chapitre 10 jusqu'à chapitre 28 d'Actes des apôtres. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui arrivaient. Et même plus tard dans la vie de l'apôtre Paul, il avait besoin d'une conversion de le judaïsme vers le christianisme. Et l'idée, c'est qu'on pense souvent que c'est un changement automatique. On tourne un switch et puis l'interrupteur fait en sorte qu'on devient chrétien instantanément. Mais la réalité, c'est qu'on amène beaucoup de bagages avec nous, n'est-ce pas? Et ça, c'est normal. C'est très, très normal et ça prend du temps à bien régler toutes ces choses-là. On a vu la semaine passée, on a parlé de le fait que l'apôtre Paul, lorsqu'il a commencé, avec un voyage missionnaire. Les anciens de l'église d'Antioche ont décidé de mettre à part Barnabas et Paul pour un voyage missionnaire. Ils sont traversés sur l'île de Chypre. Ensuite, ils sont rentrés dans la partie sud de la Galatie. Et puis, ils ont fait plusieurs arrêts dans plusieurs villes. Et est-ce que vous vous souvenez, j'essaie de vous donner juste un aperçu de son système. L'apôtre Paul a un système. Grâce à sa conversion, grâce à son arrière-plan, c'est quoi la première chose qu'il faisait quand il arrivait dans une ville, Charles?
Il arrivait dans les synagogues prêcher aux Juifs.
Et on va dans la synagogue. Et on a dit qu'il y a des raisons pour lesquelles il va dans la synagogue. Premièrement, je veux dire, c'est parce que c'est un réflexe. L'apôtre Paul, c'était un bon petit garçon juif. Et les garçons juifs, ils passent leur temps où? Dans la synagogue. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on a dans la synagogue qu'on n'a pas ailleurs? On a des rouleaux, des parchemins. On a l'Ancien Testament. Et si on veut enseigner, si on veut apprendre, c'est la meilleure place à y aller, on va dans la synagogue. Alors, c'était une place où on avait accès à la parole de Dieu, à la parole qu'ils avaient à ce moment-là. Et pour un enseignant, quelqu'un qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ, quelle meilleure place que de retourner dans l'Ancien Testament? Genèse chapitre 3, hein? On parle à Ève et on dit que quoi? De ses enfants va sortir celui qui va écraser la tête du serpent. Déjà, on est à chapitre 3, on commence à annoncer l'arrivée du Messie. Et puis, on va à travers l'Ancien Testament, histoire après histoire, image après image, on a vu l'image de Joseph et Jésus. Encore des images de notre Seigneur qui va venir, des choses qu'il va faire, des choses qu'il va accomplir. Quelle meilleure place d'y aller que dans la synagogue. Et j'en parle un peu ce matin parce que ça va continuer à être un thème qu'on va revoir à travers les passages qu'on va regarder ce matin. Et à la fin de leur premier voyage, ils sont retournés à Antioche et puis Barnabas a dit qu'il veut retourner sur l'île de Chypre. L'apôtre Paul, il ne veut pas y aller, il veut partir à nouveau. Donc, lui part avec un autre bonhomme, Silas, et il s'en va, eux autres, faire un deuxième voyage. Et dans le deuxième voyage, ce qui diffère beaucoup, c'est qu'ils passent au nord les villes où ils ont fait leur premier voyage. Ils continuent plus vers la Macédoine et ensuite ils arrivent à Corinthe après avoir passé par Athènes. Et de là, il va partir, il va aller à Éphèse et ça va être la première rencontre que l'apôtre Paul va avoir avec les Éphésiens. Et c'est lors de ce deuxième voyage qu'on voit notre ami Paul qui passe à travers les différentes villes pour se rendre à Éphèse. Now, une des choses qu'il faut comprendre, que Paul arrive à Corinthe et il est découragé. C'est pas ça que ça dit, mais on sait qu'il l'est. Okay? On va arriver à démontrer comment on arrive à cette conclusion-là. Mais si on regarde comme faut, Actes chapitre 18, Actes après 18, ça commence avec une expression qu'on voit assez souvent dans les Écritures. Acte 18, il nous dit, après cela, après quoi? Ben, après chapitre 17, après chapitre 16. Qu'est-ce qui est arrivé à chapitre 16? Est-ce que vous vous souvenez? Paul arrive à Macédoine et il va dans la ville de Philippe et qu'est-ce qui lui arrive? il fait emprisonner. Mais si tu veux quelque chose qui va vraiment baisser la morale, mets-moi dans la prison, ça va vraiment me faire tomber un coche ou deux. Mais pas l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, est à minuit, qu'est-ce qu'il décide d'avoir? Une réunion d'adoration. Il commence avec Silas à chanter à minuit. Il chante des chants. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il envoie un tremblement de terre. Et c'est là où on a commencé l'Église, en Philippe. Et c'est drôle, on dit d'habitude, on va dans un synagogue, mais Philippe n'avait pas de synagogue. Donc, Paul a rencontré Lydia et quelques autres personnes, des gens qui suivaient la croyance juive au bord de l'eau. Et puis, c'est de là qu'il a commencé, et puis il se fait mettre en prison, et puis là, le joaillier va connaître le Seigneur, lui et sa famille. Et l'Église commence à grandir, dans le temps de le dire, à cause de la persécution. C'est pas un sujet pour se décourager trop, n'est-ce pas? Si le message de l'Évangile est annoncé, si malgré les troubles, malgré les problèmes, qu'est-ce qui arrive? La parole est partagée. Et l'apôtre Paul, il part et il retourne à la prochaine ville, Thessalonique. Qu'est-ce qui arrive à Thessalonique? Il est là peut-être pour à peu près, on pense, 3 à 4 semaines, pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'il est dans la synagogue encore, il entend encore de débattre avec les Juifs. Qu'est-ce que ça voulait dire le Messie? C'est qui le Messie? Et tu peux imaginer comment ça peut réchauffer. Et ça arrivait justement qu'on lui a mis dehors et on lui a chassé de Thessalonique. Il est allé à Berée. Berée, les gens étaient beaucoup plus nobles. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Paul annonçait l'Évangile, eux autres, ils ouvraient les rouleaux puis ils checkaient pour voir ce que Paul il dit. C'est regardons ça, c'est dans les Écritures, exactement comme Paul a dit. Et c'est les gens qui étudiaient, mais devine quoi? Les Juifs de Thessalonique sont venus et ils l'ont chassé de Berée. Il est obligé de partir. Alors, quand il est parti de là, Paul réalise très rapidement qu'il y a un thème ici. La persécution fait en sorte qu'ils sont renvoyés, mais il y a des jeunes croyants dans chacun de ces villes. Il fait envoyer Silas et Timothée dans les villes. Silas à Philippe et il envoie Timothée à Thessalonique. Et on a ça à travers les autres écritures, les autres lettres que Paul a écrites. Il fait référence justement à ces hommes-là et le travail qu'ils faisaient dans ces villes-là. Lui est allé tout seul vers le sud, il arrive à Athènes et il voit une ville qui est tellement intelligente, tellement instruite, mais ils ont tellement de Dieu. Et il commence à annoncer l'Évangile et il a un peu d'intérêt, mais pas tant que ça. Les gens sont plutôt appétitifs. Ils ont plus ou moins d'intérêt. C'est fun de l'entendre parler parce qu'il parle assez bien, mais par de ça, on n'est pas vraiment intéressé à son Jésus. Alors, Paul quitte Athènes et il s'en va à Corinthe. Mais par les lettres aux Thessaloniciens et les lettres aux Philippiens, on découvre qu'il y a quelque chose qui est arrivé à Athènes avant qu'il soit arrivé à Corinthe, après acte 17 et avant acte 18. Il semble que Silas et Timothée, après avoir travaillé dans ces villes, revient et rejoint Paul à Athènes. Et Paul les renvoie parce qu'il entend toutes les choses qui arrivent dans ces jeunes églises et il s'inquiète pour eux autres et il est préoccupé. Il fait retourner Silas et Timothée dans leurs différents ministères et lui, il quitte Athènes et il arrive à chapitre 18, verset 1, il arrive après cela, Paul, parti d'Athènes, se rendit à Corinthe. Et là, verset 2 nous dit qu'il trouve un juif nommé Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et ils travaillaient. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et persuadait les Juifs et les Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, ils se donnaient tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Alors, Paul arrive à Corinthe, il rencontre un homme et sa femme, il devient amitié avec eux autres, ils ont le même métier. Et je vous propose une histoire. une histoire très simple, ok? Et en connaissant un peu les traditions, on peut facilement agencer ça pour en arriver avec une histoire très intéressante. Paul arrive tout seul d'Athènes, il arrive à Corinthe, et la première place qu'il va, vous savez, c'est dans le
synagogue,
ok? Qui se rend là. Ok, dans les synagogues, normalement, c'est comme notre église, un endroit assez bien, on accueille les gens, on vient louer le Seigneur, on vient lire les Écritures, et normalement, on s'assied, mais en fait, pas comme nous. Nous, on s'assied où?
Yeah.
OK. C'est mauvais étudiant. Hein? Ah oui, moi, mes étudiants, hein? On va donner le quiz. Non, sérieux. Où est-ce que vous êtes, vous êtes assis où dans l'Assemblée? Est-ce que vous avez des places préférées?
Au milieu.
Oui, ça, c'est le milieu en avant. Toi, tu peux voir, tu peux entendre. OK, je comprends ça, Charles. Où est-ce qu'on s'assied d'habitude? Où ça nous tente, hein? Non, pas dans la synagogue. Dans la synagogue, on classifiait les gens. Et devinez comment on les classifiait? Par leur métier. C'était la norme dans les synagogues, c'est que celui qui travaillait dans le tissu, bien, on le mettait là-bas parce que les autres aussi ils travaillent le tissu. Et si on avait quelqu'un d'autre qui était bouché, bien, on le mettait avec les autres qui travaillaient dans le métier de la nourriture. Et on divisait les gens d'après leur métier. Devine avec qui Paul s'est assis. Bonjour, mon nom c'est Paul. Hein? Hein? Il a, mon nom c'est Philas, ça c'est ma femme blessée. Eh bien, vous venez d'ici. Alors, moi je me soupçonne que c'est là où ils sont rencontrés. L'autre histoire, c'est qu'ils se trouvent un job dans le marché parce que Paul n'a pas d'argent. Il faut qu'il se fait vivre quand même. Il a un métier, il est un faiseur de tentes. Littéralement, il travaille le cuir. Bien évidemment, les tentes sont faites avec le cuir. C'est comme ça qu'on arrive avec cette définition. Mais Aquilas, lui aussi, travaillait le cuir, le temple, et c'est très logique qu'ensemble, ce métier était le point où ce que les autres se sont connus. Et Paul avait besoin de travailler, et les autres avaient une entreprise en marche, et puis, on se met ensemble, on travaille, on fait de l'argent, on est capable de faire vivre. Et Paul est bien. Il y a quelque chose aussi de spécial. Lorsqu'on parle de Aquilas, il travaille avec Aquilas et il y a un élément que je trouve très important ici. Paul, j'ai dit qu'il était découragé avec la persécution, avec toutes les troubles qu'ils avaient. Et pourtant, ils avaient des amis qui travaillaient avec lui, mais là, il y a des nouveaux amis. Et il n'y a rien qui excite le monde que d'avoir des nouvelles connaissances, des gens avec qui on peut échanger, des gens avec qui on a vraiment un point en commun. C'est fun de parler avec des gens, d'avoir justement cette relation, des intérêts partagés. Mais un des intérêts que je vous propose, c'est que Aquilas connaissait déjà le Seigneur. C'est un homme qui était juif, fidèle, mais c'était aussi un homme qui connaissait le Seigneur Jésus. Et je vous amène à une autre partie de l'histoire. Il nous dit ici que, parce que Claude avait ordonné tous les Juifs de sortir de Rome. Pourquoi est-ce que Claude va en renvoyer les Juifs? C'est-tu parce qu'il est raciste? Rome était remplie de toutes les nations, de toutes les places. Ils avaient des gens qui étaient là, des commerçants, ils avaient des esclaves qui venaient de partout. C'est pas parce que Claude est plus raciste qu'un autre. Et lorsqu'on lit les historiens du temps, du siècle, on découvre qu'à Rome, il y avait un irritant pour la population à Rome. Et Claude a embarqué dans ce scénario. C'est qu'il semble que les Juifs partaient toutes sortes de chicanes, toutes sortes d'émeutes. Et puis, ça a l'air que c'était fort, c'était violent, c'était évident. C'est pas une chicane dans un coin. Non, c'était public, dans les marchés, partout. Et le problème, c'est que les Juifs, est-ce que les Juifs étaient des gens normalement batailleurs? Pas vraiment, mais seulement, c'est pas les Juifs qui étaient batailleurs, sauf sur un sujet. Quel sujet?
Les croyances en Dieu.
Et?
Pour dire que nous, nous donnons la rente des canaux, on ne peut pas vous dire.
Les Césars.
OK, hein?
Les Césars, comme roi, ils n'acceptaient pas
Qu'est-ce que Paul a vécu depuis son premier voyage? Il va dans un synagogue, il enseigne jusqu'à temps que les gens quoi, se choquent, il le jette dehors. Il y a même une place où on a essayé de le lapider.
Oui.
I mean, okay, c'est les Juifs qui n'en veulent pas de notre Seigneur Jésus. Et dans les commentaires, ce qu'on lit, c'est qu'on soupçonne que Aquilas et les autres chrétiens à Rome étaient verbales. Ils se disaient, ils annonçaient l'Évangile, les Juifs n'aimaient pas ça. Ça faisait que ça criait à un point que ça devenait des chicanes. Claude a dit, j'en ai assez de ça, d'avoir tous les Juifs. Parce que pour un Romain, il n'y a pas de différence pour lui entre un chrétien et un Juif. Les deux sont pas polythéistes, OK? Comme tu as dit tantôt, les deux, ils croient dans un seul Dieu, et les chrétiens, c'est juste un secte des Juifs. Ça ne vaut pas la peine de les séparer. Pour eux autres, ils voient ça comme un seul problème. Dehors, il les renvoie de Rome. Alors, Aquilas, avec son métier, il est capable de travailler n'importe quelle ville. N'importe qui a besoin de faire des tentes, réparer le cuir. On va le voir, le gars dans le marché qui fait ça. Ah, regardons ça. Aquilas est là, tout équipé, prêt à faire le travail, collecter de l'argent. So, il s'installe à Corinthe. Et la semaine passée, j'ai mentionné que Corinthe était une ville, c'est une ville commerciale, internationale. C'est la seule place, si vous allez du nord au sud de Grèce, que tu peux passer, c'est par Corinthe. Parce que la terre est étroite à ce point-là. C'est la place où tout le monde passait. C'est la place où tout le monde venait. Et quand ils venaient là, ils venaient du nord ou du sud pour échanger. Meilleure place à faire le commerce. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive? Les gens qui partent de l'ouest, qui viennent de l'est, devinent quoi? Ils n'aimaient pas faire le tour. So, ils arrivaient à l'ouest de Corinthe. Il y a une petite ville où, sur la mer, on ramassait toutes les marchandises, on les transportait à pied. Jusqu'à l'autre côté, et puis devine quoi, il y avait un autre port à l'autre côté de Corinthe, et c'est une distance d'à peu près 8 kilomètres. C'est pas loin. On traversait ça, et puis, quelle meilleure place à arrêter, mais dans la grande ville de Corinthe, on peut faire tout ce qui se fait à Corinthe, et Corinthe est reconnue pour son péché. Toutes sortes de débauches qui se faisaient là. Quelle meilleure place à venir. Quelle meilleure place à venir quand notre tente est déchirée, et on va aller dans le marché, et on va le faire réparer. So, Aquilas, il s'installe là avec son épouse, il commence à travailler, et devine quoi? Il rencontre cet apôtre Paul. Et Paul découvre qu'ils sont des chrétiens, et pour lui, c'est une connexion instantanée. C'est vraiment deux personnes qui se comprennent, qui se connaissent très bien, et il a beaucoup de facilité. Et ça encourage l'apôtre Paul. Un point qui arrive dans la synagogue, puis il recommence encore à enseigner. Puis je suis sûr, de temps en temps, il regarde le quartier, les faiseurs de tente, puis il regarde Priscille, et puis Aquilas, et puis il se donne un clin d'œil, on annonce l'Évangile. Et alors, c'est vraiment des ouvriers ensemble. Et on sait que c'est tellement bon, il devient de plus en plus encouragé. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, verset 4, il persuadait les Juifs et les Grecs, mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Alors, quelque chose qui arrive, Timothée et Silas arrivent, eux autres arrivent de la Macédoine, ils arrivent de Philippe, ils arrivent de Thessalonique. Et on sait ces choses-là parce qu'on lit dans les livres, les épîtres que Paul a écrits à Thessalonique et à Philippe. Il parle justement de la relation qu'il y a eu. Il parle même de l'événement en question, la question de leur arrivée. Pourquoi? Parce qu'il apporte la bonne nouvelle. Les églises grandissent. Et si on lit 1 Thessalonicien et 2 Thessaloniciens qui ont été écrits à ce moment ici, on a l'impression que l'apôtre Paul a besoin de travailler parce qu'il y a tellement de points qu'ils doivent adresser. Mais pour l'apôtre Paul, ce n'est pas un sujet de découragement. Hein? C'est un temps d'encouragement. Ils arrivent, Timothée arrive, et puis en passant, Paul, ils avaient des questions sur la fin des temps. Ils avaient une question de qu'est-ce qui arrive avec ceux parmi notre famille qui ont connu le Seigneur Jésus, mais qui sont morts. Il y a plein de questions comme ça. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il sort le parchemin, il sort la plume, puis il commence à écrire. Il va donner des réponses. Pour quelqu'un qui enseigne, demande à Dan ici, là, quand il enseigne, une des meilleures choses, c'est quand les étudiants, ils te posent des questions. Le premier encouragement, ils ne dorment pas. Et quand les gens arrivent à l'apôtre Paul avec des questions, lui, qu'est-ce qu'il fait? Son grand plaisir, expose les Écritures, ouvre les Écritures avec eux autres, partage, les informer. Et on voit ça dans ces épîtres-là, n'est-ce pas? On voit comment est-ce que Paul, il part avec un passion, il est encouragé. C'est plus le gars découragé d'atteindre, parce que personne ne voulait rien savoir. Puis, non, là, il est impliqué dans le ministère. Savez-vous que l'apôtre Paul a écrit l'épître de Romains où? Bien, tu sais. Probablement. Et il l'a envoyé à Rome, mais lui était à Corinthe. Comment ça se fait qu'il savait qu'il y avait une église à Rome?
À Aquila.
Et ils ont pris, et tout à coup, on a cette livre, cette épître de doctrine tellement bien instruite. Et on voit comment l'apôtre Paul pensait, comment est-ce qu'il lui réfléchissait. Mais c'est à cause d'eux autres. Eux autres, ils ont dit, ah, mais regarde, nous, on a quitté Rome, mais on a laissé un paquet de non-juifs qui connaissent le Seigneur, mais ils sont tout seuls à ça. Et on a amené avec nous tous nos rouleaux. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, qui s'y est pris, prend le temps de, quoi, adresser les besoins des églises. Il y a une église à Rome, j'aimerais un jour aller le visiter, c'est ça qu'il dit. Et il est en train de leur donner des chapitres après chapitres de doctrine, d'encouragement, d'exhortation. Paul est vraiment pompé. À Corinthe, Paul devient pompé. Une autre chose qui a eu lieu à Corinthe, plus loin ici dans le chapitre 18, Dieu va paraître à Paul et il va dire, reste ici. Il y a beaucoup de monde ici qui doit être touché par la parole, je veux que tu restes ici. Alors, Paul a resté plus longtemps à Corinthe que presque n'importe où ailleurs. Il y a une autre exception, puis on va y arriver. Mais il a resté presque 18 mois. Un an et demi pour Paul, rester dans la même place, là, c'est spécial. Mais pensez-y un peu. Les gens viennent du nord, les gens viennent de l'ouest, les gens viennent du sud, ils viennent de l'est, les gens viennent partout. Quelle meilleure place arriver à avoir un témoignage. Dans le marché, oui. Mais il y a quelque chose d'autre qui a changé dans ces versets-là. Il a dit, hein, « Mais quand Silas et Timothée furent arrivés? » Mais quand? Alors, c'est un moment clé. Okay, quelque chose est arrivé. Il fut arrivé de la Macédoine. Il se donna tout entier à la parole. Alors, tout à coup, monsieur a pris ses ciseaux, ses aiguilles, ses fils. Il a mis ça dans le sac puis il a dit, « Laisse faire. » Là, je m'en vais plein temps comme missionnaire. Plein temps comme évangéliste, il a commencé. Et s'il était dans le marché, ce n'était pas pour réparer des temples, c'était pour apporter l'évangile. Et il retournait dans la synagogue, et il discutait avec les Juifs, et il commençait à vraiment partir une campagne d'évangélisation. Now, on sait que Timothée venait de Thessalonique spécifiquement, parce que dans le chapitre 3, verset 1 de 1 Thessalonicien, Paul de quand j'ai envoyé Timothée chez vous. Et la même chose avec Silas. Alors, quand Silas est arrivé de Philippe, il a amené des bonnes nouvelles, mais il a amené d'autres choses. Qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené la bonne nouvelle, ça va bien l'Église, on a travaillé ensemble, on a étudié la parole, mais il y a quelque chose d'autre. C'est reconnu dans les lettres de Paul que les gens de Philippe étaient généreux. Malgré leur pauvreté, ils donnaient. Silas est arrivé avec un sac d'argent. Et là, Paul dit, sac d'argent, travaille dans le marché, l'évangile, laisse faire le marché. J'ai mon argent, je suis capable de vivre, je suis capable de payer mes gars, viens-t'en, on s'en va, on va en campagne d'évangélisation. Et c'est comme ça qu'il est arrivé. Peux-tu voir comment il devient encouragé? Un homme qui était éprouvé, qui était persécuté. Et là, tout à coup, il arrive, et là, ses amis sont là, il y a des nouveaux amis, on a à cœur un ministère dans une grande ville. L'apôtre Paul est littéralement, il est prêt à aller au ciel, mais il va rester un peu parce qu'il y a encore des gens à aller chercher. Il est excité, il est stimulé, il a plein d'encouragement. Alors, il va continuer à prêcher dans la synagogue jusqu'à quand? Vous savez, on en a déjà parlé. Jusqu'à quel moment? Il va prêcher dans la synagogue jusqu'à temps qu'on lui envoie un jet dehors, c'est ça. Alors, devine qu'est-ce qui arrive? Ça fait 18, on va lui jeter dehors. Et quand il sort de synagogue, il va secouer la poussière de son menton. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ne reçoit pas votre parole, soufflez la poussière et
allez-y ailleurs.
C'est un témoignage pour dire que l'homme de Dieu est venu vers vous et que vous l'avez reçu.
Et ça, c'est une tradition juive. Les Juifs, lorsqu'ils quittaient Israël pour aller en voyage d'affaires, ils avaient à la frontière, ils enlevaient la poussière de leurs sandales parce qu'ils ne voulaient pas amener la poussière d'Israël chez les païens. Et puis quand ils revenaient de faire affaire là-bas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils arrivaient à la frontière, ils secouaient la poussière pour ne pas amener la poussière étrangère dans le pays d'Israël. C'était une pensée judaïque et Paul le faisait en disant, c'est dans tes problèmes. Moi, je t'ai annoncé l'Évangile. C'est à toi maintenant de faire quelque chose. Hein? Il prend le symbole, il s'en sert. Paul, malgré qu'il est un chrétien, est encore un petit gars juif. Okay? Et il y a d'autres exemples de ça dans chapitre 18. On va voir que Paul, malgré le fait qu'il connaît le Seigneur Jésus, qu'il annonce l'Évangile, il est vraiment un chrétien. Mais de l'autre côté, il a quoi? À cœur. Les frères, les sœurs hébreux. Et nous, on sait, parce que quand on lit l'Épître aux Romains, Paul, il ne peut pas s'empêcher dans chapitre 9, 10, 11, de parler de quoi? Ses frères. Comment est-ce qu'ils ont à cœur, ses frères? Si je pourrais donner même ma vie, hein? Il a à cœur. Littéralement, quand il quitte le synagogue, il est fâché. Il est frustré avec ses frères hébreux. En passant, lit comme faux, et devine quoi? Paul, il va s'installer ailleurs. Où est-ce qu'il va? Chez un croyant qui habitait la maison à côté de la synagogue. Encore pire, hein? On rentre dans la synagogue, mais où est-ce qu'ils vont tout ce monde-là? Ben, moi, dans la maison de. Hey, je suis à côté. Pourquoi? Parce que lui, il est en train de accueillir Paul pour entendre encore cette Jésus, cette bonne nouvelle de Jésus, à côté du synagogue, juste l'un à côté de l'autre, là. Ah, mais sais-tu quelque chose? La vraie compétition, hein, c'est quand c'est l'un à côté de l'autre. Là. C'est ça qu'on pense, nous autres. On devrait aller ouvrir une entreprise juste en face de chez vous, s'assurer que vous le savez, que nous, on est là. C'est tout ça que Paul a fait. Pensez un peu. Il aurait pu s'installer à l'autre côté de la ville. Non, 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 il va juste à côté de la synagogue. Tu vas voir, les Juifs, si vous avez une moindre curiosité, viens chez nous. Alors, je te dis, spécial. Alors, il reste là pendant 18 mois, il continue à travailler. Et verset 18, Paul reste encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères. Il s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être rasé la tête à Sanctuary, car il avait fait un vœu. Hein? Il arrive à Éphèse et Paul laissait ses compagnons. Alors, l'apôtre Paul a fait un vœu. Combien de vous faites des vœux? Chez nous, on a une boîte pour ça.
À mon anniversaire.
À ton anniversaire, hein? Le jour de l'an. Chez nous, on avait une boîte, un petit boîte de bois, puis ça avait sorti ça. Et chaque fois que les enfants faisaient une promesse, on leur disait, voici crayon, papier, écris-le, on va le mettre dans la boîte de bois. Et quand ils faisaient des promesses, on mettait ça dedans, puis il y avait dedans, on se sert de ce boîte-là pour les rappeler de leur vœu. Ici, c'est semblable, mais ce n'est pas tout à fait ça. Dans la Torah, dans les premiers livres de Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, tous ces livres-là, on a la loi. Et dans la loi, dans Nombre chapitre 6, versets 1 à 6, on a une une pratique qui est décrite. Comment faire un vœu? Et il y a un système pour faire un vœu. Le système est bien écrit, défini. C'est qu'on va faire un vœu et on va laisser pousser notre cheveu comme preuve qu'on a fait un vœu. Et lorsque le vœu est terminé, on va raser notre tête, on va ramener nos cheveux au temple et on va le brûler dans un cirier de sacrifices pour démontrer qu'on a gardé cette vœu. C'est tellement important quand on réalise que c'était normal chez les Hébreux, on avait cette notion d'un vœu. C'était très populaire. Les gens le faisaient. Et normalement, le vœu, c'était pas pour s'engager envers quelque chose de spécifique, mais plutôt pour célébrer, pour démontrer la gratitude envers le Seigneur. Et ça impliquait plusieurs choses. Par exemple, ce qu'on va dicter dans ce passage, c'est qu'on va s'éloigner de quoi? Le fruit de vigne. On ne boit pas. On ne prend pas d'alcool. On ne prend pas de vin. On ne prend même pas de jus de raisin, juste par crainte que ça pourrait nous rendre ivres. Et on avait cette notion de vivre une vie avec un paquet de qualifications démontrant notre fidélité envers le Seigneur à cause de sa fidélité envers nous. Alors, il semble que l'apôtre Paul l'a fait. Now, dans le temps de l'apôtre Paul, c'était très commun que les gens faisaient ça, mais ils avaient normalement une période très bien définie. C'est-à-dire, normalement, un vœu, c'était bon pour 30 jours, pour 60 jours, ou peut-être 90 jours. On n'est pas sûr pour l'apôtre Paul, mais assez longtemps que ses cheveux dépassaient ses oreilles, que ses cheveux poussaient. Et là, il s'en va à Century, qui est le village que je te parlais au bord de la mer. Et avant de partir, il coupe ses cheveux, prêt pour s'engager. Et ça va avoir un énorme impact sur le comportement de Paul, ce désir d'accomplir ce rituel juif. Et c'est ce que Paul veut faire. Il veut absolument accomplir ce vœu en s'en rendant au temple pour une fête et pour brûler ses cheveux parce qu'il est tellement rempli de gratitude. Et dans les commentaires, il y a des gens qui vont à gauche, à droite, à savoir de quoi est-ce que Paul célébrait. Alors, peut-être c'était sa fête. Peut-être c'était l'anniversaire de quand il a accepté le Seigneur. On ne sait pas. Ah, mais moi, je propose quelque chose. Ce que j'ai lu qui me stimule beaucoup, c'est que Paul était excité pour l'œuvre qu'il a faite à Corinthe. Il était vraiment heureux de participer dans la conversion de tellement de personnes et de voir comment l'Église s'est grandie. Et tellement il est content, il va amener Priscille et Aquilès avec lui. Il s'en va et il se rend au port. Il prend un bateau pour l'amener jusqu'à... lui, il voulait aller au moins jusqu'à Syrie, puis ensuite marcher la distance à Jérusalem. Mais le navire en question arrive à Éphèse. Il traverse le mer Égée pour arriver là-bas. Nous, on voyage d'une façon différente aujourd'hui. Quand vous allez en voyage, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez des billets? Oui, d'avance, normalement, vous planifiez votre voyage un peu? Normalement, quelle sorte de billets est-ce que vous aimez? Des billets sans escale, n'est-ce pas? Est-ce que je peux me rendre à telle place sans être obligé de passer par 5-6 places? Moi, Christian, on a fait un voyage une fois, gaffe de moi. Mal bouclé mes affaires, on avait 5 escales entre Los Angeles et Montréal. Et tout le long, j'étais assis dans mon siège et il y a quelqu'un à côté de moi qui me donnait des coups de coude, de temps en temps un petit coup de poing. On va-tu se rendre? On va-tu être là? Ah, oh, c'était long, hein, Christian? C'était pénible. Paul est embarqué sur le navire, mais les navires font des arrêts. Et pour les arrêts, c'est très logique un peu, parce que le gars qui est patron de ce bateau-là, lui, il veut le remplir avec quoi? Avec des passagers, avec du cargo, il veut l'amener du stock. Il veut faire de l'argent, c'est son entreprise. Donc, quand c'est bien rempli, on part. Premier arrêt, bien, on a du monde qui veut débarquer à Éphèse. On a du stock à livrer à Éphèse. Mais l'apôtre Paul, lui, il veut aller plus loin. Alors, il arrive à Éphèse, et puis, la première chose que le capitaine leur dit, « Hey, ça va nous prendre quoi? 3-4 jours pour quoi? Décharger tout le cargo qui vient ici, puis on a des contrats ici, on va les négocier, puis on va remplir le bateau. So, vous avez 2-3 jours à vous promener un peu, à profiter de le tourisme, va voir le temple de Diane, va, amuse-toi. » Et les Paul, ils quittent avec Priscille, avec Aquilas. Et devine, où est-ce qu'il va? Qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? Première chose, il va dans la synagogue. Étant entré dans la synagogue, il entretient avec les Juifs. Et les Juifs le prient de prolonger son séjour, mais il ne consentit pas. Pourquoi? Ben, c'est bien simple, ses mains sont pleines de cheveux. OK? Il ne peut pas rester. Il a déjà fait un vœu, il veut l'accomplir. Il faut qu'il se rende au temple pour brûler ses cheveux, pour offrir des sacrifices. Il n'y a pas de choix, il faut qu'il aille. Il ne peut pas rester, même s'il voudrait. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? « Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Mais il laisse quelque chose à Éphèse. Qu'est-ce qu'il a laissé? Aquilas et Priscille, bien. Hein? Paul n'est pas nouf. Et on a des gens qui veulent entendre parler de l'Évangile, mais ils vont leur moins laisser Aquilas et Priscille. Les autres sont capables d'expliquer la bonne nouvelle. Et là, Paul il dit, je vais aller en paix, et puis les autres vont continuer le ministère ici à Éphèse. Et c'est voilà où ce que l'Église à Éphèse a commencé, c'est avec Priscille et Aquilas. Paul a rencontré, a fait son premier sermon. Hein? On l'appelle ça le sermon bijou. Hein? Il a préparé ça depuis longtemps. Il avait ça dans sa poche. Première fois que j'arrive dans un synagogue, pouf, je dépose ça. Peut-être qu'il commence avec Ésaïe 53. C'est celui-là où moi je commencerais. Mais on commence avec quelque chose, avec de la viande, et puis on est capable de démarrer un bon dialogue, une discussion pour présenter l'Évangile. Alors, il laisse Priscille et Aquilas là pour commencer le ministère. Et ça commence le ministère comme quoi? Comme une cellule dans la maison. Je suis sûr que Priscille et Aquilas ont trouvé un appartement, et puis il invite les gens à venir manger, et puis il leur parle de l'Évangile. Tu as des questions dans la synagogue, mais viens me voir. On va manger ensemble, on va parler. Moi, je suis un bon juif, toi, tu es un bon juif. Viens, viens. On a de quoi discuter. Et tu peux voir, la cellule commence dans leur maison. Et ça, c'est fascinant de voir ça. Quand on pensait à Emmanuel n'a pas commencé un jour, on a tous décidé de se rendre à une telle place, pour avoir une rencontre. Non. Il y avait des rencontres dans les foyers, on avait des réunions de prière, on avait pris le temps, et on a commencé petit, tout simple. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on commence avec des cellules chez nous? C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait dans la cellule? On parle de la parole de Dieu, on parle de les besoins des frères et des sœurs, on parle des voisins qui ont besoin d'entendre l'Évangile. On prie pour eux autres. On amène devant le Seigneur leurs besoins, nos besoins. C'est ça, l'entité de la cellule. C'est une petite mini-église. Ça commence comme ça. Et on voit... Et ça grossit, justement, oui. Ça se multiplie même. Alors, on a ici, Paul, il continue son voyage vers Jérusalem. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, il va compléter son vœu. Et il va retourner à verset 22-23, il va retourner à Antioche. Alors, pourquoi Antioche après aller à Jérusalem? C'est parce que c'est là où il a commencé. C'est l'Église qui lui a envoyé. Il retourne pour leur parler de leur rapport. Puis tu peux imaginer qu'est-ce qu'il va dire. Il va raconter comment est-ce qu'il est allé à Philippe, comment est-ce qu'il est allé à Thessalonique, à Béré, à Athènes, il est allé à Corinthe. Et il va parler, surtout, je suis sûr, de Corinthe, comment est-ce qu'il a rencontré Aquilas et Priscille, comment est-ce qu'ils ont commencé un travail là-bas. Et c'est vraiment un sujet de louange pour les gens d'Antioche qui l'ont envoyé à l'apôtre Paul de savoir que toutes ces églises ont été commencées avec ces efforts. Mais, vous pouvez imaginer que ce n'est pas fini là, n'est-ce pas? Hein? Paul, il va faire un troisième voyage. Il va partir d'Antioche. Et divine, crois-tu, sais comme moi? Le Seigneur va le ramener à Éphèse, n'est-ce pas? Mais entre-temps, pendant que lui fait tout le fin de son deuxième voyage, et puis il recommence le troisième voyage, à Éphèse, Aquilas et Priscille travaillent. Verset 24 de chapitre 18, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Now, c'est un homme qui arrive à Éphèse, c'est un homme juif, il arrive et il enseigne, il connaît ce qu'il dit ici, les Écritures, il connaît la voix du Seigneur. C'est quoi la voix du Seigneur? Nous, on pense que la voix du Seigneur, c'est?
La parole de Dieu.
La parole de Dieu, amen, et... quoi? Le plan de salut. Mais en lisant plus loin, on découvre que lui ne semble pas bien comprendre le plan de salut. Il comprend très bien l'idée de l'Ancien Testament annonce l'arrivée du Messie. Il connaît le baptême de Jean. Alors, juste pour vous donner un peu une perspective, le baptême de Jean, c'était quelle sorte de baptême?
Repentance,
exact. C'est, on arrive et on se prépare pour l'arrivée du Messie. On commence avec quoi? La repentance de nos péchés. Tourne de nos péchés. Mais quelqu'un qui se repent de ses péchés, est-ce que c'est suffisant pour avoir la vie éternelle?
Oui.
Non.
Non.
Ça parle plus que ça.
Il y a beaucoup de voleurs qui se repentent d'avoir volé, mais ils continuent à voler.
Ah! Et c'est ça le problème. Prends ces deux brigands sur la croix. On a un qui est là et il dit à l'autre, pourquoi est-ce que vous moquez de celui-ci, ce Jésus? Hein? Il n'a fait rien de mal. Mais nous sommes des voleurs, nous sommes des brigands, nous sommes coupables. Et là, c'est fun, il repentit de ses péchés à deux minutes, mais il fait quand même, n'est-ce pas? Et ce qui est plus important, c'est qu'il tourne vers le Seigneur et dit quoi? C'est quoi ça? Je mets ma confiance en toi. Repentance, c'est essentiel. Foi dans le Seigneur, encore plus.
Amen.
Et je vous dis tout de suite, c'est très difficile d'avoir foi dans le Seigneur et pas avoir repentance. Le jeune homme riche qui est venu et qui a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? As-tu gardé la loi? Oui, oui, j'ai gardé la loi. OK, cool. Hein? Puis là, il dit quoi? Vends tout et viens, suis-moi. Il voulait, mais pas assez.
Hein?
Amen.
Ben
oui. Et ça paraît dans ses comportements, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Alors, on voit cette situation. Apollos arrive, il est un homme qui nous dit éloquent. Le mot grec pour éloquent ici veut dire que c'est un homme très instruit. Nous, on pense éloquent à quelqu'un qui parle bien, mais tu parles bien parce que tu as beaucoup de connaissances. Et on nous dit qu'il ensuite, il était versé dans les Écritures. Le mot versé, c'est une personne qui expose bien la parole de Dieu. So, lui, il connaît l'Ancien Testament. Et il faut comprendre un peu l'histoire. Il vient d'une ville d'Alexandrie. Sa formation était aux meilleures écoles hébreux imaginables. Alexandrie était connue comme étant un centre de formation. Ils avaient des bibliothèques, ils avaient les lectures. À un tel point, beaucoup des commentaires vont nous faire référence, pas à l'Ancien Testament hébreu, mais à l'Ancien Testament qui était traduit de l'hébreu en grec par le Septante. Vous avez entendu ça, le Septante? C'est 70 érudits dans l'Ancien Testament qui ont dit « Le monde est grec, on doit traduire ça dans un langage courant pour ceux qui habitent loin ». Et ils ne sont pas formés dans l'hébreu. Nous, on va leur préparer une traduction. Comme nous, les Français, comme nous, les anglophones, on est obligés de garder une traduction. Mais les autres, il y avait une traduction. Une traduction qui était très précise, qui était littérale, qui était très bien respectée. Et devine qui? Hein? Devine où? C'était Alexandrie. D'où venait Apollos? Apollos était un homme vraiment bien formé. Mais il connaissait le baptême de Jean. Les commentaires disent que probablement il était un homme curieux. Il a quitté l'Égypte, l'Alexandrie, pour se rendre en Israël. Pourquoi? Entendre parler de ce bonhomme dans le désert qu'il enseigne. Il va le voir et il est touché par le message. Il est inspiré par le message. Mais probablement, Apollos n'a pas vu la crucifixion ni la résurrection. Et c'est pour ça que Priscille et Aquilis l'entendent enseigner et on dit ouf, on l'invite-tu pour dîner? Qu'est-ce que tu en penses? On va amener Apollos manger. Hey, manger un bon repas ensemble, puis on va le remplir bien comme il faut. Et lorsqu'il est rassasié, on dit hey, Apollos, je veux te parler d'une couple de choses. Moi, c'est ça que j'imagine. Mon imagination travaille bien fort. Bien, je peux voir Priscille et Aquilis qui ont mis le bras autour. Ils disent viens-t'en avec nous. On va avoir du temps ensemble. Et ils vont quoi? Ils vont l'instruire. Et devine quoi? Apollos, un homme instruit, un homme qui a vraiment à cœur les Écritures, il prend pas ça à la légère, il prend ça et quoi? Il devient évangéliste. À un tel point qu'on nous dit, verset 27, « Comme il voulait passer en Achaïe, les frères y encouragèrent et écrivaient aux disciples de le bien recevoir. » Tu peux voir un peu où est-ce que dans les églises, où est-ce que Paul a commencé les églises, il est dans les synagogues, on le jette dehors, on est obligé de le rencontrer dans les foyers. Devine quoi? Il y a un juif qui arrive, il va certainement se rendre aux synagogues, il va commencer à enseigner, et les chrétiens vont dire, mais c'est-tu un bon gars? Et évidemment, Priscille et Aquilis vont leur donner un des lettres pour qu'ils puissent déposer dans le chemin, puis dire, hey, voici, ton ami Aquilas m'envoie avec bénédiction. OK. Si Aquilas lui donne bénédiction, je vais. On va le prendre au sérieux. Alors, il s'en va à Corinthe. Et je vous dis ça parce que vous savez très bien en lisant 1 Corinthiens que l'apôtre Paul a écrit. En passant, on pense qu'il a écrit d'où? Est-ce que vous savez un peu? D'où est-ce que l'apôtre Paul a écrit 1 Corinthiens? On pense peut-être Éphèse. Plus tard, dans son troisième voyage, quand il arrive à Éphèse, il va envoyer une lettre. Et qu'est-ce qu'il dit dans son lettre? Il dit, n'oubliez pas, moi j'ai semé, mais qui a arrosé? Apollos. L'apôtre Paul était très conscient, et il entendait les nouvelles, et il sait très bien qu'Apollos s'est rendu à Corinthe, et il a commencé à enseigner, et il a continué le travail qu'il avait fait. Et l'apôtre Paul est fier, il est content. Et il se voit comme étant entouré de coéquipiers. Alors, on voit comment le Seigneur l'a béni, l'a envoyé. Il réfutait, verset 28, vivement les Juifs en public, démontrant les Écritures que Jésus est le Christ. C'est ça que ça prend. Ça prend les hommes instruits pour le faire. Et c'est vraiment fascinant de voir comment est-ce qu'on l'a pris avec lui, on l'a amené. Bon, en conclusion, est-ce que vous ne voyez pas comment c'est un privilège d'être appelé par Dieu pour être dans sa famille? Le jour où j'ai accepté le Seigneur, j'avais ce sentiment, wow, d'avoir un Dieu qui m'aime tellement, qu'il veut m'adopter. Ah, mais ça, c'est déjà impressionnant, n'est-ce pas? Moi, je suis prêt à couper mes cheveux. Non. Peut-être pas mes cheveux.
Le reste
de mes cheveux. Malheureusement, chez nous, on n'a pas beaucoup de petits juifs pour faire des vœux comme ça. Mais vous voyez comment c'est une bénédiction. Et littéralement, on voit à travers les Écritures. On voit comment est-ce que ça se fait. Ensuite, l'autre chose que je trouve fascinant, n'est-ce pas, c'est que d'être placé parmi d'autres qui ont eu cette même bénédiction. Hein, on parlait des tiroches au commencement, mais on est tous dans le même baril. C'est donc merveilleux que Dieu nous mette ensemble pour qu'on puisse travailler l'un à côté de l'autre, pour qu'on puisse apprendre, pour qu'on puisse vraiment avoir un ministère, avoir des impacts auprès des gens autour de nous. Il nous a mis dans son corps. Et ensuite, il nous a mis ensemble pour gagner d'autres âmes, pour agrandir, pour croître. Et alors, ce matin, j'aimerais ça qu'on quitte avec cette louange. On voit comment est-ce que Dieu s'est servi d'Apollos, de Priscille, d'Aquilas. Et de penser que nous autres, on est juste parmi cette gang-là. Dieu veut servir de nous. Il veut qu'on ouvre nos portes, qu'on aille accueillir le gens, qu'on va pour travailler, amener l'Évangile. Et c'est quelque chose qui se fait jour après jour. Et c'est une bénédiction. C'est un louange qu'on devrait donner à Dieu. Courbons-nous. Père éternel, on veut te remercier pour les amis de Paul qui l'ont encouragé au moment où il était dans une période bas. Et comment tu l'as encouragé, tu l'as servi de lui, mais aussi tu as servi de ces gens-là. Et Seigneur, on voudrait que tu fasses la même chose ici, Emmanuel, comme tu as fait il y a 40 ans quand on a commencé. Ici, on était un petit noyau, et Seigneur, on grandit par ta grâce. Sers-toi de nous. Et on demande ces choses par le bon nom de Jésus. Amen.